Bonjour Église. Avant de commencer, je vous invite aussi à prier. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce temps que tu me permets de passer, qui est vraiment très spécial. Seigneur, tu vois que c'est le premier week-end du reconfinement et on avait presque pris cette habitude d'avoir cette liberté de se déplacer, mis à part les masques. Et Seigneur, tu vois que bah voilà, on est de nouveau chez nous à suivre ce culte à distance. Et je te prie pour que vraiment ce message puisse nous parler à nous aujourd'hui, à ton Église aujourd'hui. Et je prie que, Seigneur, ce message puisse nous encourager, nous édifier à être encore plus semblables à ce que tu veux que nous soyons, Seigneur, que nous puissions encore plus te glorifier. Et je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Donc, le titre de la prédication est « Nous avons la victoire en Jésus-Christ ». Avant de parler de victoire, on peut se poser la question. Avec les circonstances aujourd'hui de la pandémie mondiale, on sait qu'il y a 1,3 million de cas en France, qu'il y a environ 45 millions de cas dans le monde entier. Est-ce que nous avons perdu? Est-ce que nous avons échoué? Déjà, à titre personnel, est-ce que j'ai été négligent parce que je n'ai pas mis du gel hydroalcoolique en sortant du RER ou des courses? Est-ce que j'ai raison de manger au restaurant avec mes collègues vu que c'est là que nous enlevons tous nos masques? Est-ce que j'ai contaminé quelqu'un de ma famille ou un collègue sans même le savoir? Est-ce que j'ai raison d'avoir des doutes vis-à-vis des autorités et des différents discours des spécialistes de la santé, surtout que certains se contredisent entre eux? Où est le vrai? Où est le faux? Avons-nous échoué? Avons-nous perdu? Et je crois que c'est légitime de se poser ce genre de questions. Et probablement que vous avez répondu au moins une fois oui à l'une de ces questions. Et je pense que nous avons tous échoué d'une manière ou d'une autre. Maintenant, je vous invite à prendre du recul par rapport à tout cela. Je vous invite à fermer les yeux et à imaginer. Dieu est tout-puissant. Dieu est notre Père. Dieu est souverain et il contrôle toutes choses. Toutes choses. Dieu est éternel. Non seulement cette crise du Covid n'est pas en dehors de son contrôle, mais en plus, il sait quand elle va se terminer et comment elle va se terminer, car il est Dieu. Dieu n'est jamais surpris. Dieu a permis cela, probablement dans un but que nous ne voyons peut-être pas encore. Ce même Dieu nous dit dans le passage d'aujourd'hui que nous avons la victoire. Pas une victoire nécessairement contre un virus particulier, mais la victoire contre le monde, contre le mal, contre Satan. La victoire qui compte le plus et qui nous permet d'avoir la vie éternelle. La victoire en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Voilà, signe de victoire. Et le plan du message aujourd'hui se fera en deux parties. D'abord, du verset 1 au verset 5, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et enfin, du verset 6 au verset 12, nous avons des témoins de cette victoire. Sachez que dans le message, il y aura de nombreuses références bibliques qui seront tirées de Matthieu, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Jean et de la première épître de Jean. 1 Jean. Donc, je vais relire le verset 1 au verset 5. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Nous allons voir aujourd'hui que nous avons la victoire en Jésus-Christ, parce que lui-même, Jésus-Christ, a déjà eu la victoire sur la mort, et cette victoire se vit de trois manières. D'abord par la foi, ensuite par notre amour, et enfin par notre obéissance. D'abord, la victoire par la foi. C'est celui qui croit en Jésus qui a la foi, qui est né de Dieu. Je relis le verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on croit? D'abord, un bref rappel sur la nouvelle naissance. La parole est prêchée, l'évangile est annoncé, la bonne nouvelle est annoncée. Et le Saint-Esprit va convaincre le cœur de la personne de son péché et de son besoin de repentance. Cette personne se rend compte que la seule solution consiste à croire en Jésus-Christ. Elle décide alors de croire en Jésus-Christ comme Sauveur, mais aussi comme Seigneur. Dieu lui a donné cette foi et le Saint-Esprit vient vivre en elle. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, être né de nouveau. C'est comme on l'a chanté tout à l'heure, 2 Corinthiens, qui disait que nous sommes une nouvelle créature. C'est à cause de cette nouvelle naissance que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et on a vu ça dans 1 Jean 3 déjà précédemment et dans l'évangile de Jean au chapitre 3, quand Jésus dit à Nicodème qu'il faut naître de nouveau. Le Saint-Esprit va transformer chaque jour cette personne, ce chrétien, pour ressembler davantage à Jésus-Christ, notre modèle parfait. Ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre, la sanctification. Et l'apôtre Jean, en fait, il écrit à des chrétiens qui connaissent déjà cette vérité. Et comme, en fait, la plupart d'entre nous qui connaissons déjà cette vérité. Mais il trouve bon de rappeler cette vérité parce qu'elle est essentielle et c'est le fondement de notre vie chrétienne. Et la foi, selon Hébreux 11, verset 1, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est être sûr, en fait, de ce qu'on ne voit pas. Cette foi nous est donnée par Dieu, comme on l'a lu tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. C'est un don de Dieu. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Donc si aujourd'hui, tu écoutes ce message et que tu n'as pas encore toi-même cette foi, tu peux prier Dieu, en fait, pour qu'il t'aide à réaliser combien tu es éloigné de Dieu à cause du mal qui est en toi, ce qu'on appelle le péché, et qu'il te montre qu'il peut te pardonner si tu crois en Jésus-Christ. Tu peux lui demander cette foi dans ta prière. Dieu n'écarte jamais une prière qui vient d'un cœur sincère. Je t'invite à continuer à écouter ce message. Nous allons parler par la suite de la victoire que nous procure cette foi. Donc cette foi, c'est une foi qui nous amène aussi à triompher du monde, c'est-à-dire de Satan, c'est-à-dire du mal. Et si je relis le verset 4 et le verset 5, « Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Un autre passage qui vient corroborer ce que je viens de dire, c'est Jean 16, verset 33, où Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » J'ai mis en gras exprès, Jésus dit qu'il a vaincu le monde et son esprit qui a vaincu le monde est en nous aussi. Dans 1 Jean 2, versets 12 à 14, donc précédemment dans l'épître de Jean, « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous. » Et que vous avez vaincu le mauvais. Nous avons vaincu le mauvais, nous avons vaincu le diable, non pas par notre propre force, mais par notre foi en Jésus-Christ. Et enfin, notre passage dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Dans 1 Jean 4, 4. Jean dit que nous avons aussi vaincu les faux prophètes, et les faux prophètes, c'est ceux qui ne viennent pas de Dieu, mais du diable. C'est ceux qui ne croient pas que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. C'est aussi une foi qui nous aide non seulement à vaincre le mal, mais aussi une foi qui nous aide à avoir la victoire dans nos épreuves. On peut le voir dans Romains 8, versets 37 à 39, un passage que l'on connaît tous très bien. « Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Romains 5, versets 3 à 5, qui nous dit « Bien plus nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Là, on est en train de parler de chrétiens qui vivent des épreuves. Et c'est vrai que ça ressemble un peu à peut-être ce que nous sommes en train de vivre. Nous vivons des épreuves, peut-être que certains travaillent dans le secteur de la restauration, et c'est clair que ce secteur est très touché. D'autres personnes travaillent peut-être dans le secteur du tourisme, et pareil, ce secteur est très touché. Mais voilà, là, on ne parle pas de la victoire contre un virus, mais on parle de la victoire de notre âme, en fait, de victoire spirituelle. Et cette foi qui triomphe du monde, elle a été donnée par Jésus-Christ lui-même. Et en parallèle, en fait, Dieu nous demande aussi de persévérer dans notre foi, dans cette relation qu'il nous propose. Et tout ça, ça va se faire dans nos temps de qualité avec Dieu, ça se fait dans notre moment de culte personnel. Et même dans des circonstances qui sont difficiles, nous avons une foi qui triomphe du monde parce que c'est une foi qui va au-delà de ce que nous voyons. En fait, nous voyons avec des yeux qui sont spirituels, non pas nos yeux naturels, mais nos yeux spirituels. Et si aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous, vous avez l'impression de stagner dans la foi, de pas avancer, eh bien, je vous invite à répondre à l'appel de Dieu. Et pourquoi pas le faire maintenant, dès ce premier week-end de confinement? Dieu nous appelle à revenir à lui en étant embrasé, enflammé pour lui, à faire de lui notre priorité. Et ça, ça peut commencer, par exemple, par un temps régulier que j'appelle non négociable, chaque matin. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 20 minutes, ça peut être une heure, peu importe, mais commencez par une base. Ne commencez pas trop grand, commencez par une base. Et dites-vous que c'est un temps qui sera non négociable, c'est-à-dire que vous n'allez pas continuer le reste de la journée tant que vous n'avez pas passé ce temps avec le Seigneur. On a vu que c'est une victoire qui se vit par la foi, et c'est aussi une victoire qui se vit par notre amour. En effet, la foi donne par définition cet amour pour Dieu, parce que nous avons cette foi en Dieu et nous avons cet amour pour Dieu. Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 1, qu'on a lu tout à l'heure, il dit que quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Donc ça, c'est la première partie qu'on a déjà vue. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. Donc, si j'aime un père, je dois aussi aimer son enfant. Or, moi-même, je suis un enfant de Dieu et les autres aussi, les autres chrétiens aiment aussi le Père. Donc, tout comme moi, je suis en relation avec le Père et les autres sont en relation avec le Père, Dieu nous demande de nous aimer, en fait, logiquement, les uns les autres. Et je rebondis sur le message qu'a apporté Pasteur Philippe la semaine dernière sur 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 21. Et son message principal était que, puisque Dieu nous aime et qu'il demeure en nous par son Saint-Esprit, aimons-nous les uns les autres. Il avait aussi partagé ce graphique. Et dans ce graphique, en fait, on voit que plus chacun d'entre nous, moi et l'autre, notre frère et sœur, on se rapproche de Dieu, plus finalement nous sommes proches les uns des autres. Et plus nous nous préoccupons, non de notre propre confort, mais finalement des affaires de Dieu qui nous appellent à aimer les uns les autres, à nous aimer les uns les autres. Il y a d'autres passages qui parlent aussi de cet amour selon Dieu et selon Jésus. On peut le voir dans Jean 13, versets 34 à 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Donc, c'est Jésus qui parle aux disciples. « Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ici, Jésus nous appelle à aimer comme lui-même nous a aimés. Et cet amour, on voit que c'est un témoignage pour le monde. Un autre texte dans 1 Jean 4, versets 7 à 8. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu, car Dieu est amour. Nous sommes appelés à aimer parce que l'amour même vient de Dieu et parce que Dieu lui-même est amour. » Et enfin, 1 Jean 3, verset 16-18, un passage beaucoup plus radical. « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » Donc là, dans ce passage, Jean va plus loin. Il nous demande d'être plus radical dans notre amour, en allant jusqu'à donner notre vie pour nos frères et sœurs, en imitant Christ, en fait, qui a donné sa vie pour nous, en aimant concrètement avec des actions et pas juste avec des mots. Je tiens à apporter une petite précision. C'est vrai que de manière générale, on sait qu'on est appelé à aimer notre prochain comme nous-mêmes, peu importe qu'il soit croyant ou pas. Dans cette lettre, Jean met l'emphase sur l'amour que nous devons avoir envers les autres croyants, envers les frères et sœurs en Christ. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si nous n'avons même pas cette base qui est voulue par Dieu, qu'au moins d'aimer notre frère ou sœur en Christ, ce sera encore plus difficile finalement d'aimer notre prochain qui est lui-même non-croyant. Et de plus, cet amour que nous avons entre frères et sœurs est un témoignage pour le monde, comme l'a dit dans Jean 13, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et cet amour peut attirer d'autres personnes et attirer cette personne pour qu'elles aient envie encore plus d'avoir cette foi en Christ. Et comment est-ce qu'on pourrait vivre ce passage? En fait, on pourrait tout simplement le vivre comme l'a proposé Pasteur Philippe la semaine dernière, c'est nous aimer les uns les autres de manière concrète, encore plus en ces temps de confinement. Par exemple, ça peut être prendre des nouvelles les uns des autres, en s'écrivant, en s'appelant, en priant les uns pour les autres. Mais avant tout, soyons surtout intentionnels. Ne nous fixons pas d'objectifs trop grands. Commençons peut-être par une personne par semaine. Prendre des nouvelles d'une personne par semaine, c'est déjà un début. Donc la victoire se vit par la foi, par notre amour. Et cette foi nous amène à aimer Dieu et notre prochain. Et maintenant, on va voir comment cet amour nous pousse aussi à garder et à respecter les commandements de Dieu. Et en fait, quand on pense à respecter des commandements, on pense rarement à quelque chose de très positif. Par exemple, on va vous parler de couvre-feu, c'est un commandement. Bah, vous ne pouvez pas sortir de chez vous après 21h. Et ça, ce n'est pas super agréable. Le confinement qu'on est en train de vivre, qu'on a déjà vécu, vous ne pouvez pas sortir de chez vous tout court. Et c'est vrai que ce n'est pas très agréable comme commandement à première vue. Mais si ces commandements ont été donnés, c'est que le législateur, celui qui a donné ces commandements, avait une raison derrière cela. Et dans notre cas, par rapport au Covid, bah, c'est pour réduire le taux de contamination du Covid et de désencourager les hôpitaux. Et de la même manière, Dieu lui-même donne des commandements, s'il donne des commandements, c'est qu'il a une raison bien particulière de le faire. C'est d'unir son peuple, de le rendre saint, mis à part pour lui, et de le glorifier. Et je vous propose de relire ensemble ce passage de 1 Jean, chapitre 5, verset 3. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, et on va plus approfondir ce verset. Sur la notion de respecter, garder ses commandements, donc on a ce passage précédemment, qu'on avait déjà vu il y a quelques mois, 1 Jean 2, versets 3 à 5. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Un autre passage, dans 1 Jean 3, 24, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'esprit qu'il nous a donné. Donc on voit dans ces passages que garder ses commandements et garder sa parole démontre que nous connaissons Dieu. Je connais Dieu, donc forcément je vais garder ses commandements. Je connais Dieu, donc forcément je vais garder sa parole. Garder ses commandements montre aussi que Dieu demeure en moi grâce au Saint-Esprit. Et en fait, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais qu'on insiste particulièrement sur ces passages-là. D'abord, il ne s'agit pas de respecter ponctuellement un commandement quand ça m'arrange au choix, mais là, il s'agit de garder tous les commandements. Tous les commandements. Et de plus, là, on utilise le verbe garder. Ce n'est pas juste respecter ponctuellement un commandement, c'est vraiment garder, c'est-à-dire respecter tout au long de notre vie, garder ce commandement dans notre cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, comme nous dit le psaume 119. Bah, garder dans le sens que bah, ça va être chaque moment de ma vie, tous les jours, toutes les nuits, à chaque moment. Et peut-être on peut réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait appliquer ce passage dans notre vie. Est-ce que peut-être il y a un commandement avec lequel j'ai du mal, un commandement de Dieu avec lequel j'ai du mal? Peut-être c'est pardonner mon prochain. Peut-être c'est porter le fardeau d'un autre. Peut-être c'est ne pas laisser le soleil se coucher sur ma colère. Alors, je vous laisse un temps de silence, de réflexion. S'il y a un commandement que vous avez du mal à appliquer, je vous invite à laisser Dieu travailler dans votre cœur et à vous donner la force d'obéir à sa parole. Et ça peut être, par exemple, prendre des temps de silence dans notre culte personnel pour écouter la volonté de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 3, la dernière partie nous dit que les commandements de Dieu ne représentent pas un fardeau. Et parmi ces commandements, il y a un commandement particulier sur lequel Jean insiste, c'est ce qu'on va lire dans 1 Jean 3, verset 11. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Un autre passage, c'est 1 Jean chapitre 3, verset 23. Et voici quel est son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. Vous avez compris, c'est le commandement de s'aimer les uns les autres. Et ce commandement de s'aimer les uns les autres, c'est quelque chose d'intrinsèquement, quelque chose de bon en fait. Demandez à n'importe qui, à vos amis, à votre famille, qui peut être athée ou agnostique ou n'importe quelle croyance, s'il reconnaît que le principe de s'aimer les uns les autres est bon, je suis sûr qu'il va toujours vous répondre oui. Si vous leur demandez, est-ce que d'après toi, s'aimer les uns les autres, c'est quelque chose de bon, elle va forcément, quasiment tout le temps vous dire oui. Ainsi, c'est pour ça que ce n'est pas un fardeau de s'aimer. Encore plus quand on parle de frères et sœurs en Christ, qui sont de la même famille spirituelle que nous, ça ne devrait pas être un fardeau de s'aimer les uns les autres. Cette notion de fardeau, Jésus en parle aussi dans Matthieu 11, versets 28 à 30, dans ce verset 28 qu'on connaît très bien. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Ce qu'on oublie souvent, c'est la suite, versets 29 et verset 30. « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » À la croix, nous échangeons notre fatigue, notre fardeau, contre le repos de Jésus. Et souvent, peut-être, on s'arrête là. Mais en fait, là, Jésus nous dit qu'en échange, il nous donne un autre fardeau. Il nous donne un autre fardeau qui est beaucoup plus léger. Et il nous demande aussi de respecter ses commandements qui sont bons, ses exigences. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Avec Jésus, en fait, nous sommes toujours gagnants. Nous perdons notre vie d'avant avec son lourd fardeau, mais nous gagnons une vie qui est nouvelle, avec un fardeau bien plus léger que Dieu, que Jésus nous aide à porter. Alors, pour nous-mêmes, on peut réfléchir à est-ce qu'il y a un fardeau qui nous pèse ? Je vous laisse pareil un temps de silence pour réfléchir. Est-ce qu'il y a un fardeau, une épreuve, une situation que vous vivez actuellement qui vous pèse ? Eh bien, vous pouvez le déposer à la croix. Vous pouvez l'échanger contre le fardeau de Jésus, qui est plus léger. Mais si vous déposez votre fardeau à la croix, je vous en supplie, ne repartez pas avec ce fardeau. Laissez-le vraiment à la croix et passez à autre chose. Laissez-le à la croix. Seigneur, je te dépose ce fardeau à la croix. Je ne veux pas le reprendre. Je te le laisse parce que tu as déjà payé ta vie pour ce fardeau. Merci Seigneur. Amen. Pour conclure sur cette première partie, nous avons vu que la victoire en Jésus-Christ, nous l'avons parce que lui-même a déjà la victoire. Cette victoire, nous pouvons y prendre part par la foi, par notre amour et par notre obéissance. Passons maintenant à la deuxième partie. Je vais relire le passage, verset 6 au verset 12. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qui l'a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc après avoir vu que nous avons la victoire grâce à Christ, nous allons voir les acteurs qui rendent témoignage à Jésus, Christ, Fils de Dieu. Tout d'abord, l'eau, le sang et l'esprit rendent témoignage. Alors vous voyez ici, verset 6, l'eau et le sang. Et on peut peut-être déjà se poser une question. Pourquoi est-ce que Jean il parle de l'eau? Pourquoi est-ce qu'il parle du sang qui rend témoignage? C'est assez étrange. Autant l'esprit qui rend témoignage, ça nous parle. L'eau et le sang, c'est pas forcément très parlant. Alors, je ne sais pas si vous avez posé cette question, mais en tout cas, je me suis posé cette question et j'ai creusé un peu plus. Et en fait, au moment où il écrit ce texte, Jean, l'apôtre Jean, fait face à une hérésie, ce qu'on appelle une fausse doctrine. Et c'est une hérésie qui venait d'un homme qui était nommé Sérinthe. Ce Sérinthe prétendait que Jésus était un homme, seulement un homme, et que le Christ est descendu sur lui sous la forme d'une colombe au moment de son baptême et qu'il l'a quitté au moment de la crucifixion. Si bien que ce n'est pas vraiment Jésus-Christ qui est mort, mais c'est juste Jésus en tant qu'homme qui est mort à la croix. Et le problème, c'est que si Jésus n'est pas le Christ, le Messie, et que le Christ n'est pas mort pour nos péchés, alors le Jésus homme, qui serait juste un homme, ne pourra pas porter nos péchés, parce qu'il ne sera qu'un homme. En fait, c'est comme si vous ou moi, on meurt, bah, ça n'aura aucun prix, en fait. Et alors, nous ne serons pas sauvés, parce que Jésus, dans ce cas-là, qui n'est pas le Christ, si on croit vraiment ce que dit Sérinthe, eh bien, on ne sera pas vraiment sauvés, il ne portera pas nos péchés et nous n'aurons pas la vie éternelle. Vous voyez à quel point, des fois, on a l'impression que c'est rien du tout, c'est une petite différence, mais c'est une vraie fausse doctrine, parce que ça peut remettre en cause même le fondement de notre foi. Et pour contrer cette fausse doctrine, Jean, il explique que l'eau du baptême de Jésus-Christ et le sang de sa crucifixion, donc l'eau, c'est le baptême de Jésus, et le sang, c'est sa mort sur la croix, rendent tous les deux témoignages à qui est Jésus, à son identité. C'est le même Jésus-Christ qui s'est fait baptiser et c'est le même Jésus-Christ qui est mort à la croix. C'est ce même Jésus-Christ qui a fait des miracles, qui a guéri des malades, qui a prêché le royaume de Dieu et qui a porté nos péchés sur la croix. Nous pouvons avoir donc cette assurance que Jésus-Christ a payé le prix à la croix en étant tout suffisant. C'était ce Jésus qui était pleinement homme et pleinement Dieu. Jésus qui était pleinement homme et pleinement Dieu. On peut voir notamment que par rapport à l'eau, dans Matthieu, chapitre 3, verset 16 à 17, dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » C'est un passage que j'aime beaucoup utiliser pour défendre la Trinité, parce qu'on voit que Jésus est présent, que l'Esprit de Dieu est présent, que le Père est présent, et donc ils sont présents en même temps, trois personnes de la Trinité. Et on voit ici que Jésus reçoit le témoignage directement du Père. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, il a toute mon approbation. » Et c'est vraiment un passage clé par rapport à ça. Et que l'Esprit-Saint est aussi présent pour rendre témoignage. Un autre passage parle aussi de la mort, du sang de Jésus. Matthieu, chapitre 27, verset 54. Donc, vous savez, c'est juste après que Jésus ait poussé son dernier souffle. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». À travers le sang versé à la croix, ça a rendu témoignage en fait que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Et en plus de l'eau et du sang, Dieu le Père aussi rend témoignage au Fils durant sa vie. Alors bien sûr, on a aussi le témoignage des apôtres. On voit ça dans le verset 9. Si je reprends le verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qui l'a rendu à propos de son Fils. Donc on parle quand même de témoignage des hommes. On ne dit pas qu'il ne sert à rien, mais on dit que même s'il y a un témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus important encore. Donc, on a déjà parlé du baptême de Jésus, donc le Père qui rendait témoignage. Et là, on va dire dans 1 Jean, chapitre 5, verset 9, « Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand. » Donc ça, c'est le passage que je viens de lire. Jean 5, verset 37, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. » Donc là, attention, hein, c'est 1 Jean, et là, c'est Jean 5, 37. Donc là, on est de nouveau dans l'Évangile, et dans l'Évangile de Jean, Jésus est en train de dire que le Père qui m'a envoyé a rendu du même témoignage à mon sujet. Donc, Jésus disait déjà dans l'Évangile, au moment de son ministère sur terre, que le Père rendait témoignage. Et enfin, dans Matthieu 17, verset 5, « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. » Donc, on parle de la transfiguration de la nuée. « Une voix fit entendre ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Un peu les mêmes paroles que ce qu'il disait pour son baptême, celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Elle dit écoutez-le. Donc, il y a le Père qui rend témoignage. Il y a aussi le Saint-Esprit qui rend témoignage, le Saint-Esprit qui est la troisième personne de la Trinité qui rend témoignage. Dans Jean 15, verset 26, quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc là, c'est Jésus dans ses dernières paroles à ses disciples avant de se faire arrêter dans l'Évangile de Jean. Il dit que l'Esprit-Saint va venir, il sera appelé le défenseur, il va rendre témoignage de moi. Et dans Jean 16, verset 14, un peu plus loin, il révélera ma gloire, donc on parle du Saint-Esprit, il va révéler la gloire de Christ parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et enfin, par le Saint-Esprit en nous, nous avons ce témoignage en nous-mêmes, d'après le verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Et ça paraît logique, en fait. C'est le Saint-Esprit qui nous a permis de connaître Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Et c'est ce même Saint-Esprit qui vit en nous qui va continuer à attester chaque jour que Jésus est bien le Fils de Dieu tout au long de notre vie. Alors attention, il y a quand même aussi un avertissement pour ceux qui ne croient pas que Jésus est Fils de Dieu. Ils considèrent Dieu comme un menteur, et ça c'est en totale opposition avec la vraie foi. Cette personne, nous dit Jean, n'a donc pas la foi. Et ça fait écho avec un autre passage dans 1 Jean chapitre 1 verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Celui qui dit qu'il ne pêche pas considère aussi Dieu comme un menteur, et cette personne-là n'a pas la foi non plus. Donc cette foi que nous avons doit nous conduire continuellement à ne pas remettre en cause le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Enfin, Jean rappelle aussi l'objet même du témoignage au verset 11 et 12. « Or voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Dieu a donné la vie éternelle, qui est dans son Fils Jésus-Christ, et celui qui a le Fils, il a la vie, car il a la foi. Et logiquement, celui qui n'a pas la foi, il n'a pas le Fils, et donc il n'a pas la vie éternelle. » Un autre passage qui va dans ce sens, c'est Jean 3, versets 16 à 18. On connaît tous très bien Jean 3, 16. « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Souvent, on s'arrête là, mais il y a une suite. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » On voit que ce jugement, il est sans appel. Nous devons croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix pour ceux qui ont la foi, pour que ceux qui ont la foi aient la vie éternelle. Et si ce n'est pas ton cas aujourd'hui, il n'est pas trop tard, tu peux encore revenir à Dieu. Tu peux lui demander cette foi, comme je l'ai rappelé plus tôt dans ce message. Une autre application pour nous, eh bien, ça peut être face à des sectes, par exemple les témoins de Jéhovah ou d'autres sectes où le gourou il prétend être le Messie. Nous pouvons affirmer cette vérité biblique que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Et souvent, quand on parle avec des membres de cette secte, notamment quand on parle avec des membres des témoins de Jéhovah, les explications, elles ont l'air assez logiques, plausibles, ou parfois ils vont même citer la Bible. Et c'est pour ça que c'est important que nous, en tant que chrétiens, nous connaissions bien notre Bible et que nous sachions bien défendre cette vérité biblique que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Sinon, on ne saura pas trop comment la répondre et peut-être même ça va semer des doutes en nous. Donc, c'est important déjà de se prêcher l'évangile à nous-mêmes et de connaître la parole de Dieu. Profitons justement de cette période de confinement pour encore plus creuser ce que dit Dieu dans sa parole. Une autre application pour nous aujourd'hui, c'est, je ne sais pas si parfois ça vous arrive, vous racontez votre témoignage, comment est-ce que vous êtes converti, mais peut-être des fois on insiste, comme moi, hein, pas assez sur qui est Christ, ce qu'il a fait, et on va plus insister sur moi, comment je me suis converti, et en fait on oublie que ce n'est pas grâce à soi-même qu'on est converti, mais c'est grâce à ce que Jésus-Christ a fait pour notre vie. Donc c'est important qu'on parle, qu'on témoigne, de quand même pas juste glisser une fois ou deux Jésus-Christ, mais de dire voilà, c'est comment je me suis converti, mais c'est vraiment ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est Jésus-Christ qui a fait ça dans ma vie. C'est pas grâce à moi, c'est pas moi qui l'ai fait par moi-même, mais c'est vraiment Dieu qui l'a fait en moi. Pour conclure, le texte d'aujourd'hui évoque la victoire que nous avons en Jésus-Christ à travers notre foi, notre amour et notre obéissance. Et cette victoire, elle est encourageante en ces temps sombres que nous vivons actuellement. Parce que nous avons, nous aurons toujours cette victoire en Jésus-Christ. Et c'est à nous de persévérer dans la foi, c'est-à-dire notre relation avec Dieu que nous devons entretenir chaque jour, dans notre amour les uns pour les autres, avec cette priorité pour les frères et sœurs de l'Église, et dans notre obéissance au commandement de Dieu, qui doit se faire en tout temps. Nous avons aussi des témoins de cette victoire, donc le baptême de Jésus qui témoigne de cela, la mort de Jésus à la croix qui témoigne de cela, et enfin Dieu le Père et le Saint-Esprit en nous qui témoignent de cette victoire. N'oublions donc jamais que cette victoire, nous l'avons déjà en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il suffit de nous en rendre compte. et de continuer à marcher par la foi. Je vous invite à prier. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole qui est puissante, c'est ta parole qui sauve encore aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie pour que tu puisses nous faire encore avancer de victoire en victoire, Seigneur, dans notre cheminement avec toi, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où peut-être nous t'oublions, où nous nous mettons nous-mêmes en avant avant de te mettre toi-même en avant. Et Seigneur, nous te prions pour que nous puissions dire comme Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Seigneur, diminue-nous et grandis davantage, Seigneur, dans notre vie, grandis davantage dans ce que nous faisons, Seigneur, pour que nous vivions plus notre vie pour nous-mêmes et que nous puissions vivre notre vie pour toi, Seigneur. Merci encore pour ce salut, cette grâce infinie que tu as manifestée à la croix. Merci, Seigneur, parce que par la foi, nous marcherons et par la foi, nous triomphons, Seigneur. Merci encore pour ce cadeau de la foi que tu nous as donné. Permets-nous de conserver de garder tes commandements, Seigneur, et de faire fructifier cette foi que tu as mise en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, encore parce que tu es avec nous. Et je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.